Бабаш,
привіт. Приходь до нас.
Common Voices.
Ok, merci chers auditeurs de la radio Corax à travers de Common Voices Radio. Aujourd'hui, on va faire une émission, chers auditeurs, dont le thème portera sur l'agro-industrie. L'agro-industrie, donc, c'est deux mots qui sont dans le domaine économique, mais peut-être différents. Mais à travers de notre émission, on va essayer de développer, de voir la définition de l'agro-industrie.
Hi, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zurück auf Radio Corax bei der Sendung Common Voices. Das Thema der heutigen Sendung ist Agroindustrie, also Landwirtschaft, die Industrie um Landwirtschaft.
Donc sans plus tarder, donc ici dans l'émission, comme notre collaborateur, notre correspondant Moustapha depuis le Sénégal, c'est avec lui qu'on va faire l'émission. Et la traductrice, je pense que vous connaissez la voix, c'est Layla, notre traductrice qui est de retour. Elle nous avait laissé pour partir à Paris, mais elle est revenue. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui l'a achetée là-bas ou bien c'est la période d'été de Halle là qui est trop bonne, raison pour laquelle elle est revenue encore à Halle pour nous. Pour nous encore rendre visite.
wir sind wieder mit Moustapha, unser Korrespondent von Saint-Louis in Sénégal, wenn wir uns unterhalten und ich werde heute übersetzen.
Donc peut-être Moustapha, tu vas rentrer, saluer encore les auditeurs de la Radio Corax. Donc ils ont la nostalgie de vous revoir, là qu'on n'a pas fait d'émission pour des raisons professionnelles.
Ich glaube, wir freuen uns alle sehr, dich wieder zu sehen, Moustapha. Wir hatten jetzt länger keine Sendungen mehr, wegen professionellen Gründen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Bonjour la Radio Corax, bonjour alle, bonjour toute l'Allemagne. Bonjour les dames d'abord, Leila, donc de retour, Leila is back. Vraiment, c'est un grand plaisir d'entendre encore sa belle voix de traductrice, mais aussi avec Ousmane, donc le grand professionnel de la radio, de Common Voices, Radio Corax. Bonjour à tout le monde, assalamu alaikum.
Hallo an alle, ich bin auch sehr froh, wieder dabei zu sein. Hallo an dich, Ousmane, hallo an Layla, hallo an alle.
Mais avant tout, Moustapha, avant qu'on commence, peut-être je vais demander à Layla, ça fait un bon moment là, peut-être à peine un an qu'elle a commencé à faire traduction avec nous à la radio. Mais d'après moi, je trouve qu'elle a des améliorations sur le domaine de la traduction. Mais Layla, selon vous, qu'est-ce que vous avez appris ici à travers la Radio Corax en faisant des émissions avec nous?
Puh. Ousmane fragt mich gerade, wie, also dass sich meine Übersetzung ein bisschen verändert hat, seit ich bei Corax arbeite, und fragt mich, was ich dabei gelernt habe. Hey, viel. Viel. C'est difficile de le mettre en mots, mais je crois une espèce de concentration, une espèce de flow, j'imagine. Tu me prends à court. Ben, en tout cas, sur des thèmes variés, toujours à prendre des choses. Mais pour la traduction, je pense un espèce de flow, ouais. Je pense que c'est ça.
Cool. Traduction.
Ich finde die Frage recht schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich würde sagen, dass jedes Mal habe ich gemerkt, dass wir mehr, dass die Zusammenarbeit immer flowiger wurde irgendwie. Und das ist so, man kommt dann rein und ja. Und es war immer spannende Themen und ich freue mich einfach, euch beide zu treffen immer.
Oui, peut-être, oui, vous avez raison, je vous ai surpris avec la question, vous n'attendez pas à cette question, mais c'est la Radio Corax, d'habitude on est comme ça, on est spontané.
C'est vrai.
Ouais, rien ne se prépare.
C'est vrai, c'est vrai.
On voit avec immer notre spontane vision, avec notre sensation.
Ja. Vielleicht habe ich am Ende der Sendung eine bessere Antwort. Peut-être qu'à la fin de l'émission, je reviendrai avec une meilleure réponse.
Mais les réponses sont exactes. Ça, peut-être je vais laisser Moustapha aussi donner son argument par rapport aux améliorations de Layla, parce que ça fait des moments qu'on travaille ensemble. Et le plus souvent, elle nous demande souvent, et où est Layla? Je lui dis, non, elle est au Marseille.
Ouais. elle est dans le ouais dans le Marzi.
Mustafa peut-être.
Mustafa, denkst du über die Frage oder was hat dir was ja was würdest du antworten?
Oui, merci Ousmane, merci Leila. Donc je pense que en fait tu sais, l'amélioration peut être due à un changement quand même de pays un peu. Parce qu'en fait, avoir une langue française de naissance, mais aussi et après s'adapter sur la langue allemande, mais encore travailler avec la radio, ce qui n'est pas facile de traduire ce que Mustapha dit, ce que Ousmane dit, ce que les interviewés disent, c'est pas facile. Maintenant, avec un recul, aussi loin à Marseille, donc elle a quand même un peu se mettre en confiance, et c'est surtout cela, se mettre en confiance, et aussi continuer à travailler sur les deux langues, en étant à Marseille, mais aussi en étant aussi en ayant encore toutes les idées quand elle travaille avec la langue allemande. Et c'est ça, en fait, peut-être ce qui a fait aujourd'hui qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui dans le meilleur de sa forme et de sa traduction.
Ja, ich glaube, dass es nicht immer einfach ist zu übersetzen zwischen zwei Sprachen, aber was Mustafa meint, ist, dass es viel um Vertrauen geht, glaube ich. Vertrauen in sich oder in was man macht und dass wahrscheinlich, wenn man immer wieder in beiden Ländern ist, verändert sich der Bezug zu den beiden Sprachen und man kann dann leichter von einer zur anderen gehen. Mais je crois que ce que je dirais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours un moment après une demi-heure où il y a un bug. Ça, je crois que j'ai appris que c'est toujours comme ça. Après, il y a un moment où toi, je te parle allemand, je bug et ensuite là, ça va. Là, je suis dans l'émission. C'est toujours comme ça.
Mais d'habitude, c'est comme ça. Parce que pourquoi j'ai posé la question? Parce que je sens aussi le professionnalisme. Aussi qu'il y en a surtout dans ton travail. Et puis la traduction, c'est pas facile. Et puis parce que quand on parle, nous, je sais qu'on prend parfois des thèmes très difficiles, mais malgré cela, tu parviens à te retrouver sur nos thèmes. Et puis aussi dans la langue, il y a aussi la culture de la personne qui parle, qu'il faut prendre aussi en considération.
Ouais.
Et malgré que c'est pas à 100%, mais vous arrivez à nous satisfaire aussi sur la traduction.
Merci à toi. Ja, dass wenn man übersetzt, meinte Ousmane gerade, dass es ist manchmal, also die Herausforderungen sind von dieser natürlichen Art zu reden, die jemand hat, da so dass die Sachen rauszuholen und die zu übersetzen. Und dass jede Person eine Art hat zu reden oder dass auch die Kultur eine Rolle spielt und das mitzudenken oder dass das wichtig ist.
Donc, c'était une petite distraction, phase de distraction. Donc, chers auditeurs de la Radio Corac, nous allons revenir encore sur notre thème, qui est l'agro-industriel. L'agro-industriel, pourquoi l'agro-industriel? Parce que d'habitude, les pays comme le nôtre, les pays en voie de développement, ils ont des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Malgré qu'ils ont les terres, les eaux et beaucoup de moyens, mais toujours on voit que c'est des pays qui ont des problèmes économiques. Et aujourd'hui, on va parler sur ça, l'agriculture et l'industrie, comment ils peuvent aller ensemble.
Also wie gesagt, das Thema der heutigen Sendung ist Agrarindustrie. Und die Frage, die wir uns stellen werden, ist, warum manche Länder, die genügend Land haben, die Ressourcen haben, trotzdem ein Problem mit der Selbstversorgung haben, dass das System nicht ganz richtig funktioniert.
Donc, ce qui m'a inspiré, c'est lors d'une séance d'atelier qui se déroulait à Hanover, j'étais parti là-bas prendre des enregistrements par rapport à un exposant. Donc, on va écouter ensemble les exposés et puis ensuite on va développer notre argumentation, Mustapha et moi, au cours de l'émission. Donc, chers auditeurs de la Radio Corax, restez connectés toujours sur les ondes de la Radio Corax, Common Voices Radio.
Die Inspiration für das heutige Thema war ein Workshop, ein Atelier, an dem ich in Hannover teilgenommen habe. Und wir werden die immer wieder erwähnen, die Vorträge, die ich da gehört habe. Und wir werden dazu unsere Meinungen äußern mit Mustafa.
Donc avant d'entrer dans l'émission, on va écouter de la musique.
Und davor werden wir aber ein bisschen Musik hören.
J'arrive à ma pétard sur des châtas dans le bloc. I'm the queen of the chitap. Voilà, là, on s'y n'a joke on the top. Y'en y mêle les mangi ben ton aïe vainqueur. Dina mêle les michoui ben y'a du Uber. Missy Sénégal, sense de flex. Sense classe du Rainer niveau. J'ai sa place, t'es rare, on se bio. Dakar ou Tambakunda, hot girl on the fire, halay man la new top. Choki 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 choki
Ok, chers auditeurs de la Radio Kola, donc nous allons retourner directement sur notre thème après cette petite pause musicale de Mea Gissé. Mea Gissé est une chanteuse sénégalaise, peut-être ce que j'ai à ajouter. En tout cas, ils sont la petite génération en train de révolutionner la musique. Parce qu'au Sénégal, sa musique culturelle, c'était seulement le mbalax. Mais actuellement, ils sont en train de nous proposer une musique moderne.
Die Musik, die wir gerade gehört haben, die Musiker sind Teil der neuen Generation, die viele neue Sonoritäten und neue Sachen in die senegalesische Musik gerade bringen. Es ist nicht mehr nur Lembalach, sondern mehr Modernität kommt in diese Musik.
Ouais. Parce qu'il mélange aussi les instruments musicaux du Sénégal, la musique sénégalaise, avec la musique moderne.
Weil sie senegalesische Musik oder traditionellere senegalesische Musik mit zeitgenössischer Musik vermischen und verbinden.
Donc sans plus tarder, donc peut-être Mustafa, est-ce que tu peux nous donner un peu, selon vous, la définition de l'agro-industrie? Qu'est-ce qu'on entend par agro-industrie? Parce que moi, l'idée que j'ai, il y a le rapport entre l'agriculture et l'industriel. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut en dire de l'agro-industrie?
Mustafa, könntest du uns eine Definition geben von Agrarindustrie? Für mich gibt es eine Verbindung zwischen Landwirtschaft und Landwirtschaft und die industrielle oder die Industrie, aber was würdest du sagen?
Merci Ousmane pour cette belle musique, mais aussi la belle voix de Mia Gissé. Ousmane, pour parler un peu de la définition, bon, à mon niveau, hein, de l'agro-industrie, c'est un peu ces deux mots qui sont mis ensemble. L'un a pour définition donc, tout ce qui a trait à l'agriculture et l'autre tout ce qui a trait à l'industrie. Maintenant, ça dépend des activités agricoles qui sont définies par rapport à l'industrialisation de ces activités-là. Peut-être on va y revenir, mais pour comprendre l'agro-industrie, c'est l'ensemble des activités économiques, hein, ouais. Donc qui transforment les matières premières issues de l'agriculture. De la pêche et autres, donc, qui sont mises ensemble pour maintenant être des produits manufacturés. C'est-à-dire que, par exemple, pour le riz à l'état brut, ouais. Et le poisson à l'état brut, maintenant, pour que ça passe dans les conserves, il faut passer à l'industrie. et on va y revenir certainement. En tout cas, c'est un peu la définition de ces deux mots-là.
Vielen Dank für deine Frage und vielen Dank für die Musik, die war sehr schön. Also Agrarindustrie, das sind für mich, also ich sehe da zwei Wörter, die zusammengefügt werden, Landwirtschaft und Industrie. Was ja aber wichtig ist, ist, wie viel es mit einer Industrie zu tun hat. Also man könnte Agrarindustrie so definieren, dass es ökonomische, wirtschaftliche Aktivitäten sind, die Rohstoffe, also zum Beispiel Reis oder Fisch, in Produkte transformiert.
Ouais. Donc, Moustapha, le mot le plus que je peux prendre le plus sur ta définition, c'est donc l'effet de transformation des matières qui met la relation entre l'agriculture et l'industrie.
Mm-hmm. Also, was ich da heraushöre, ist, dass Transformation hier der Schlüsselbegriff ist.
Oui, d'accord, tout à fait. Ah, on peut prendre cette définition,
ouais.
Donc, qui fait que ce mot-là prend l'ensemble, donc pratiquement des produits qui sont destinés à la transformation. Ah, donc, yes. le secteur primaire et le secteur secondaire qui est l'industrie manufacturière. Donc, il y a le secteur tertiaire, donc qui ne concerne pas directement aujourd'hui. Si. Donc, ces deux secteurs, secteur primaire qui est la production agricole et le secteur secondaire qui est l'industrie manufacturée, c'est-à-dire que tout ce qui passe de l'état de matière première à l'état transformé, mis en boîte, mis en sachet, mise en, etc.
Ja, genau. Diese Transformation, die findet statt in dem primären und in dem sekundären Sektor der Wirtschaft. Also der Dienstleistungssektor ist da nicht wichtig. Aber es geht hier um den primären Sektor. Das wäre also die Landwirtschaft und der sekundäre Sektor, das wäre also Industrie und da zwischen diesen beiden passiert diese Transformation von Rohstoffen in Produkte.
Donc, ouais, merci de ta définition. Mais par rapport à ça, ben, on va écouter donc ici l'intervention de Monsieur Bahoum, qui est un spécialiste de l'agro-industrie. Après, on va revenir aussi sur ça.
Also, wir werden erstmal einen kleinen Beitrag hören von Hannover, also einen Vortrag, das in Hannover stattgefunden hat.
Donc, le thème était les défis et la solution dans le domaine agricole. Donc c'est un domaine qui est là, il ne va pas nous échapper et il faut qu'on le maîtrise. Et dans cela, maintenant nous avons notre pays, le Sénégal. Quand on voit un peu la géographie du Sénégal, on se dit voilà, c'est beau, c'est bien, c'est tout, mais nous, dans la thématique, l'agro-industrie, tous les pays développés, à 80%, ils ont maîtrisé l'agro-industrie, c'est-à-dire l'agriculture, la transformation de ces produits et aussi dans cette industrie. Ce n'est pas uniquement un mortier et un pilon, mais c'est une structure et la valeur, la chaîne de valeur. Et les pays qui n'ont pas vraiment cet aspect de développer cette option ne peuvent pas se développer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ne peuvent pas se développer. Je dis toujours, quand 80% des Africains et des Sénégalais, quand ils se lèvent le matin, comme on dit en Wolof, Ndekibi, le petit déjeuner. Après, il est là. Il finit le petit déjeuner, il pense déjà, oui, qu'est-ce que je vais manger à midi? Ça veut dire le hagne. Après le hagne, maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais prendre le dîner? Toute notre énergie productive est dans la marmite. Je m'excuse du mot, ce sont des réalités. C'est dans la marmite, et tant qu'on ne va pas se déconnecter de cette marmite, on sera toujours esclave de ce manque de productivité. C'est pourquoi l'agriculture aujourd'hui c'est une base sur laquelle on ne peut pas avoir honte du paysan, avoir honte du fermier quoi.
Die Hauptidee von diesem Beitrag ist die, wie wichtig die Beherrschung der Agrarindustrie ist für die Entwicklung eines Landes. Der Journalist, ist ein Journalist, ein Spezialist in
le domaine de l'agro-industrie.
Also ein Spezialist, der Spezialist der Agrarindustrie, der gerade den Beitrag macht, sagt, dass alle Industrieländer haben irgendwann die Agrarindustrie in dem Land beherrscht und dass das halt der große Unterschied war oder dass das essentiell ist in der Entwicklung des Landes. Und er gibt jetzt ein Beispiel von Senegal, aber auch anderen Ländern in Afrika. Er meinte, dass 85% der Senegaleser, wenn sie aufwachen, fragen sie sich erstmal, was gibt es zum Frühstück, dann nach dem Frühstück, was gibt es zum Mittagessen, und dass ein Riesenteil dieser der Tagesenergie in dieser Fragestellung fließt, von was wie werde ich mich bei der nächsten Mahlzeit ernähren, und dass das genau, dass diese Energie halt nicht woanders reinfließen kann.
Oui, merci, parce que là, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que là où il a commencé même, parce qu'il nous parle qu'un pays ne peut pas se développer sans agro-industrie. Donc ça veut dire que l'agro-industrie aussi a en quelque sorte la base de développement de tout un pays. Donc tous les pays qui veulent se développer doivent se lancer dans ce domaine. Mais le malheur en est que la majeure partie des pays comme les nôtres, les pays d'Afrique, il y a des agriculteurs. Le plus souvent, il dit que la population, les agriculteurs représentent presque 60%. Ils peuvent donner des chiffres comme ça. Plus de 50% de la population sont agriculteurs. Mais on voit que toujours, ils ont une autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que l'agriculteur de ces pays ne sont pas des agriculteurs industriels. Ils se lancent dans l'agriculture seulement pour se nourrir. Donc, ils s'activent pour assurer leurs besoins quotidiens. L'agriculture qu'on a pratiquée dans ces genres dans notre pays, comme le Sénégal, c'est des agriculteurs, c'est de l'agriculture alimentaire ou bien de l'agriculture familiale. Eux, ces agriculteurs, ils pratiquent l'agriculture, non pas pour se développer ou bien pour faire la transformation, mais le système d'agriculture, c'est pour satisfaire leur famille. C'est ce que M. Bahoum nous parlait. Dans ces pays, le plus souvent, ce qui nous fatigue le plus souvent, c'est la marmite. Chacun cherche à se nourrir parce que les revenus ne sont pas suffisants.
Mm-hmm. Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Beherrschung der Agrarindustrie zentral ist in der Entwicklung eines Landes, beziehungsweise die Beherrschung des Systems, das Nahrung der Population bringt. In Senegal ist ein Großteil der Population Landwirte, aber sie sind es nicht. Sie sind nicht Teil eines größeren Industriesystems, sondern sie kultivieren, was sie und ihre Familie selber konsumieren. Und deswegen würde ich zustimmen, dass die Fragestellung um Essen und so und eigene Nahrungsbedürfnisse zentral sind im Alltag und viel Energie brauchen.
Mustafa, si tu as des suggestions par rapport à ce point.
Mustafa, was würdest du, hättest du dazu noch was zu sagen?
Merci Leila, merci Ousmane. J'ai bien entendu M. Bahoum, qui je pense est un expert de la matière, de l'agro-industrie. Et il a bien campé le débat par rapport à ce que nous produisons et à ce que nous consommons. Donc, il a donné une image assez définition qui nous parle juste de que ça se limite à la marmite. Donc, le matin, de ce qu'on prend comme petit déjeuner à midi et le dîner le soir. Donc, je pense qu'il a bien campé le débat. Maintenant, moi, ce que j'en pense, c'est que en fait, l'Afrique a d'énormes potentialités au niveau des matières premières.
Also, ich würde auf jeden Fall zustimmen, und ich finde, dass dieses Bild, also dass dieser Experte uns ein anschauliches Bild vermittelt. Aber was ich dazu sagen würde, wäre, dass es ein enormes Potenzial gibt auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, was Rohstoffe angeht und wie viele Ressourcen und Bodenschätze das Kontinent eigentlich hat.
Par exemple, si nous prenons aujourd'hui la production de cacao, Ousmane, ouais. Donc qui prend pratiquement 60% de la production mondiale. Donc juste la Côte d'Ivoire et le Ghana qui font 60% de la production mondiale de cacao. Et tu vois ce que le cacao est exporté en Suisse et en Occident et en France, dans les pays de la communauté économique européenne. Il y a le noix de cajou, donc l'anacarde, donc, qui est produit au Sénégal à l'état brut. La Côte d'Ivoire aussi produit de l'anacarde. La Guinée-Bissau aussi produit de l'anacarde. Il y a le coton. Le coton qui non seulement sert dans l'alimentaire animal, mais qui sert aussi dans le vestimentaire. Donc, la production de tissus. Il y a aussi le caoutchouc et l'huile de palme, donc, qui sont produits en grande quantité dans les zones forestières comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Libéria, etc. Donc, vous voyez un peu, donc, toute cette production qui est faite aujourd'hui par ces pays-là ne sont pas transformées et sont envoyées en Europe pour une transformation.
Es gibt verschiedene, ich würde jetzt nur ein paar von diesen Rohstoffen zitieren, aber wenn man zum Beispiel die Kakaoproduktion nimmt, 60% des Weltkonsums an Kakao wird auf der Elfenbeinküste und in Guinea hergestellt. Man könnte auch Kautschuk erwähnen, Palmöl, da wird auch sehr viel in der Elfenbeinküste, aber auch in Guinea-Bissau hergestellt. Man könnte auch Cashewnüsse erwähnen. Und all diese Produkte, die werden untransformiert verkauft. Das heißt für einen niedrigeren Preis, als wenn sie als Produkte verkauft werden.
Et les incidences, je termine juste pour 30 secondes. Et tout ça, si on arrive à produire, s'il y a des agriculteurs à côté, les cultivateurs à côté, ceux qui transforment de l'autre côté et ceux qui vendent, qui commercialisent de l'autre côté, vous voyez un peu l'emploi que ça produit et le chômage qui peut diminuer ou disparaître. Vous voyez un peu donc cette fourchette de la production, de la récolte, de la transformation et de la commercialisation. Donc nous produisons et nous exportons et donc il y a une chaîne qui prend une grande marge d'emploi. Donc, que nous ne faisons pas, et après ça revient vers nous et nous commercialisons. Vous voyez un peu ce qu'on perd.
Und da sieht man ganz klar, dass es zwei Gruppen gibt, die Produzenten der Rohstoffe und diejenigen, die diese Rohstoffe transformieren, meine ich. Und es sind die Zweiten, die einen großen Anteil an Arbeitsplätzen, aber auch an Kapital Geld einnimmt und diese Produkte werden dann zurückgeschickt in die Länder als transformierte Produkte, wo sie dann eingekauft werden könnten, aber in einem viel höheren Preis und in diesen Ländern werden weniger Arbeitsplätze zum Beispiel kreiert dadurch.
Okay, tout à fait, Moustapha, parce que là où tu as parlé des produits qu'on vend à l'état brut, moi j'en ai plusieurs exemples même par rapport à ça, parce que tantôt tu as parlé du cacao. Parce que le cacao, c'est vendu le plus à l'état brut. Il n'y a aucun pays qui transforme le cacao en Afrique. La Côte d'Ivoire, qui est la principale producteur de cacao, lui, il vend directement son cacao à l'état brut. Et puis le cacao qui est transformé en Europe, c'est encore revendu en Afrique sous forme de pot comme les chocolats, à des montants plus chers. Donc là, dans ce domaine, on voit nettement une perte de valeur ajoutée.
Mir kommen sehr viele Beispiele in den Sinn, aber das Beispiel von dem Kakao, das in der Elfenbeinküste produziert wird, ist, finde ich, ein gutes Beispiel, dass die Elfenbeinküste der erste Produzent ist, aber es gibt kein Land in Afrika, das die Rohstoffe wirklich transformiert. Und dadurch gibt es einen sehr großen Verlust an Wertschöpfung und an Wertschöpfung auf diesem Produkt.
Et encore aussi par rapport ici, même là où je vis, là où je travaille, ce sont des produits qui nous viennent soit en Égypte ou au Maroc. C'est les fruits, quoi, les fraises. Eux, ils les prennent là-bas, c'est ici qu'ils se transforment et mettent en sachet, mais revendent aussi dans les marchés. ici nationaux, dans les marchés en Allemagne et ainsi de suite en Europe. Et si cela a été transformé en Afrique, peut-être beaucoup de jeunes allaient avoir du travail ou n'auront pas besoin d'émigrer aussi. Ils resteront à côté de leur famille.
Man könnte ein anderes Beispiel nehmen, das von zum Beispiel Erdbeeren, die von Ägypten und Marokko kommen und die in Deutschland transformiert werden und dann hier auf den Märkten an viel höheren Preisen verkauft werden. Und da denke ich mir, dass es eigentlich eine gute Lösung wäre, wenn diese Produkte in dem Produktionsland transformiert werden, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und so gäbe es auch weniger Emigration. Die Leute würden dann bleiben, weil sie einen Arbeitsplatz haben.
Et puis si on vient aussi au Sénégal, tantôt tu es toujours au courant par rapport au programme agricole. Les agriculteurs, après avoir produit de l'arachide, le plus souvent c'était les Chinois qui venaient acheter cette arachide. Et même ce qui était plus grave, ils fixaient, avant c'est eux-mêmes qui fixaient leur prix. C'était les Chinois qui fixaient leur propre prix, au détriment des bénéfices de ces agriculteurs. Et puis cette arachide vendue à l'extérieur, il serait transformé en huile, savon et d'autres produits manufacturés qui seront encore revendus dans notre pays.
Ein anderes Beispiel wäre die Produktion von Erdnüssen in Senegal. Ein Großteil der produzierten Erdnüsse werden von China gekauft und zum Teil zu einem Preis, das China selber erstellt, also von dem den China selbst ausgewählt hat. Um dann die Produkte zu, also die Erdnuss zu transformieren und sie in Senegal weiter zu verkaufen.
Et c'est là où je suis, c'est la campagne agricole qui est souvent une problématique pour l'État. Peut-être Moustapha peut reprocher un peu sur cette partie de campagne agricole, comment elle fonctionne et quels sont les tenants et les aboutissants.
De la campagne agricole où?
Au Sénégal.
Ah ja. Mustafa, könntest du uns vielleicht mehr sagen zur Landwirtschaft und zur landwirtschaftlichen Kampagne in Senegal, bitte?
Voilà, merci Ousmane. Donc, vous savez, les campagnes agricoles au Sénégal, c'est en fait la base dominante de la campagne agricole, c'est l'hivernage. Donc, c'est en ce moment précis donc, que la campagne agricole, elle est préparée au mois de mai, au mois de juin. Et là, il y a déjà, parce que le Sénégal dépend beaucoup de la culture hivernale. C'est-à-dire que la culture, en grande partie, dépend de l'hivernage, de la pluie. Et donc, parce que en fait, le fleuve Sénégal ne traverse pas toutes les régions du Sénégal. Donc, le fleuve Sénégal, ça traverse le nord du Sénégal, tout simplement. Et il y a quelques fleuves et affluents, donc vers la Gambie et le sud vers la Casamance. Donc les pays du centre, les pays de l'est, les pays souvent de l'ouest et un peu du sud, donc ne sont pas touchés par les eaux. Et donc la campagne agricole dépend essentiellement de l'hivernage. Et malheureusement, donc quand cette campagne agricole dépend de l'hivernage, il y a un problème de production, il y a un problème de rendement de l'agriculture. Et ça encore, c'est un autre problème qui handicape la grande production pour aller vers l'industrialisation. Parce que, pourquoi? Parce que quand vous faites une agriculture hivernale, donc vous ne pouvez pas faire un grand rendement. Et si vous ne faites pas un grand rendement, vous êtes obligé de manger de ce que vous avez produit et vendre un peu aux autres qui ne font pas l'agriculture, qui en consomment. Donc, vous ne pouvez pas non seulement transformer, mais non seulement, vous ne pouvez pas aussi non seulement exporter.
Die landwirtschaftliche Kampagne in Senegal beruht sehr viel auf der Überwinterung. Die Winterkultur ist da essentiell. Diese Zeit zwischen Mai und Juni, wo viel vorbereitet wird. Und das hat einen Grund, es ist, weil es gibt ein paar Flüsse in Senegal, aber die fließen nicht durch alle Regionen des Landes. Und deswegen gibt es zum Teil, deswegen ist Winterkultur so wichtig, in den Regionen, wo es weniger Wasser gibt. Und generell die Landwirtschaft hat bestimmte Ertragsprobleme, die Schwierigkeiten machen, um dass die Landwirte richtig exportieren. Das meiste, das sie produzieren, benutzen sie, also konsumieren sie selber, ihre Familie, und verkaufen dann nur ein bisschen, und Export kommt da nicht in Frage.
Donc merci donc pour cette première partie. Peut-être Moustapha a encore beaucoup d'idées à développer sur cette première partie, mais on va écouter une petite pause, on va faire une petite pause musicale, ensuite revenir aussi sur les fondements de l'agriculture ou bien l'agro-industrie au Sénégal.
Danke dir für deine Antwort. Wir kommen gleich zurück und machen erstmal eine musikalische Pause.
Nane munane yekindo di dorando munane munane gumna ko munane wat gal yo go munane turgi gigi jeri ji dole as gone we nan ko samu def ko yitem moy le wa buñu paginda wi rew mi des ti rew me nan ko samu ndax ñu man ci dori wa Plastique bipé plus que du poisson. Gourgué gaz can be. Fawnyo mayen te dole, si nous baguette solution. Mounane, wat nani mounane. Yekindo di dorando. Mounane, mounane. Gumna ku mounane. Wat gal yo go mounane. Mounane, wat nani mounane. Yekindo di dorando.
Ye donado be mur sa tele kono ika faye mali indula be fanka son nimbala teba yiri si fa jamal bije ye na fa zote ye
ye ngi setan ni tabakh suñu debbe fatenge na be jeli deg mali ina refa
yaay tole ke sama souf man ba tole bi may gëna souf man doomu bay kat sama dom du am sens bi ma am amuñu ndox amuñu souf amuñu alu buñu sam ñu ñi xex ñuy xex suñu biir luñ ci jëlé ndam
ge jamul bankas ñu na muñ fu ñu jafandu fu dul ci suñu mbal wa 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 jangeen suñu geeki na patu ñu gis jeun ñu ngi dundé yaakar ba am ni geul
nané wat nané mën nané yekindo di dorando mën nané munane gumna ko munane wat gal yo go munane munane wat nane munane yekino di dorando munane munane wat nane munane wat gal yo go
volonté politique la gum gum éthique la bay kat bi sam kat bi nap kat bi genn ci fitna travail d'équipe la rien n'est impossible waxtana kurelu ñuko amul ñu nara jikko suñu bëgge consommer local ci biir yi lay tambalé bañe boom nit ci lu mu mom ñu kam ku ñukoy sammal bay mu sel mu ci tay di tayes ni ñukoy yaatalé ben no te ko sé ñukoy jëmmalé
nane wat nane mu nane yekino di dorando mu nane mu nane wat nane mu nane.
Ok, merci chers auditeurs de la radio Coras, Common Voices Radio 95.9, donc de retour sur les ondes de Corax Radio. Donc on vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, ça porte sur l'agro-industrie. Ici Moustapha, Ousmane et Layla, notre traductrice.
Hi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind noch bei der Sendung Common Voices auf Radio Corax auf der Welle 95.9. Das heutige Thema ist Agrarindustrie und wir sind heute zu dritt, Ousmane, Moustapha und Layla.
Et sans plus tarder, je vous rappelle qu'on vient d'écouter une musique de Leuze Diwan, un jeune musicien sénégalais. Oui, j'ai puisé aujourd'hui sur la jeunesse. Il nous présente toujours, comme je vous l'avais dit, de nouvelles choses.
Und die Musik, die wir gerade gehört haben, ist Le Cri de la Terre von einem jungen senegalesischen Musiker, Leuze Diwan, der auch neue Sachen in die Musikszene bringt.
Donc peut-être Moustapha, comment est le climat actuellement au Sénégal?
Oui, merci Ousmane. Le climat au Sénégal, bon, il fait actuellement combien de degrés là? Il fait 28 degrés, mais il y a du vent quand même. Il fait chaud, mais il y a du vent. Il y a du vent.
C'est gerade 28 Grad in Saint-Louis. C'est heiß, aber es hat auch bisschen Wind.
Oui, peut-être, apparemment, nous sommes aussi dans les mêmes sciences, parce qu'actuellement, c'est l'été, quoi, ici en Allemagne, mais je ne sais pas encore actuellement à peu près combien de grades il fait, mais environ, je pense, il est trentaine comme ça.
Hier ist es auch um die 30 Grad.
Ouais. Donc, on va écouter, comme je vous l'avais promis, la deuxième partie de notre émission qui nous parle sur l'agro-industrie, les fonds, par rapport aux fondements de l'agriculture. On a pris référence celui du Sénégal, mais en Afrique, les problèmes sont les mêmes et s'identifient dans tous les pays.
Zurück zu unserem Thema über Agrarindustrie. Wir werden von verschiedenen Ländern in Afrika reden, wo es ähnliche Probleme gibt bezüglich Agrarindustrie.
Sénégal est riche en quoi? Ce n'est pas en minerais, comme on le dit. Ce n'est pas uniquement, comment dire, en culture. Ce n'est pas en langue. Mais sa répartition géographique climatique. Et l'eau est un élément central dans cette répartition géographique. Qui veut produire, qui veut maîtriser cette production, doit maîtriser l'eau. Et donc, quand on voit la pluviométrie, 99% de l'agriculture sénégalaise, c'est la pluie. Quand la pluie tombe, on a de l'eau. Quand la pluie ne tombe pas, on peut faire toutes les incantations, mais on ne s'en sort pas. Et donc, c'est un maillon faible. Les ambitions sont là, mais la maîtrise d'un phénomène seulement, l'eau qui soit là. Ce n'est pas pour boire, pour se laver, mais c'est pour la production végétale. Elle demande beaucoup d'eau, plus que même ce que les gens ne boivent. Maintenant, quoi en faire? Voilà. L'agropole, c'est un élément, mais l'industrie qui doit résorber pour diminuer les pertes, c'est ce que le président Ousmane Sonko a signalé ici. Des félicitations pour cette vision. Ça va demander du temps, mais on va en discuter après. Et maintenant, si on voit maintenant l'agriculture sénégalaise, nous avons ce qu'on appelle la géographie et nous avons ce qu'on appelle l'environnement. Maintenant, il y a le social. Est-ce que le social est prêt pour vraiment asseoir cette agro-industrie? Parce qu'il faut que le social soit prêt. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas des souhaits, ce n'est pas des vœux, ce n'est pas des milliards là. Est-ce que socialement, le Sénégalais est prêt pour vraiment se maîtriser et maîtriser aussi cette agro-industrie? On verra.
Also, zurück zu Sénégal. Wird gerade gesagt, dass Wasser zentral ist in der Geographie des Landes, aber auch dadurch in der Landwirtschaft des Landes. Wer Landwirtschaft beherrschen will, muss das Wasser beherrschen. Und in Senegal, wie gesagt, es gibt verschiedene Flüsse, aber es geht sehr viel um Regen. Und das Wasser, das größte Teil des Wassers des Landes geht in die Landwirtschaft. Nicht zum Trinken, sondern es fließt in die Landwirtschaft. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und der zweite wäre neben dieser Geografie, der Umweltfrage, wäre die soziale Dimension und die Frage, ob die senegalesische Gesellschaft bereit ist, seine Landwirtschaft und seine Landwirtschaft zu beherrschen und seine Agrarindustrie zu entwickeln.
Oui, tout à fait par rapport à cette argumentation sur les fondements de l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans vous parler de l'eau. Mais sur ce problème d'eau, on voit que le Sénégal, comme l'Afrique, est un pays, est un continent très ensoleillé. La majeure partie, on a le soleil 12 sur 12. Pendant tous les 12 années, c'est le soleil brille partout. Alors que le soleil aussi est un élément très important dans le domaine de l'agriculture. Il y a le soleil, il y a la terre. Donc, quel est le problème? Et puis, par rapport à ce que M. Bahoum a dit, le plus souvent, notre agriculture dépend aussi de la pluviométrie. Mais si c'est pluviométrie, quel doit être donc le problème? Tu as la terre, tu as le soleil, tu as l'eau.
Wie gesagt wurde, Wasser ist wirklich die Grundlage der Landwirtschaft. Und auf dem ganzen Kontinent gibt es sehr viel Sonne. Die meisten Tage sind sonnig. Und das macht Sonne auch eine Grundlage von Landwirtschaft. Und die dritte wäre Erde. Aber wie erwähnt wurde, Niederschlagsmessung, also die Messung des Regens, ist zentral.
Donc peut-être, Moustapha, si on prend comme l'exemple du Sénégal, on a la terre, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'eau, il y a le soleil. Donc selon quels sont les problèmes fondamentaux de l'agriculture donc dans des pays comme le Sénégal?
Also um Fazit zu ziehen, es gibt gute Erde, es gibt Wasser und es gibt Sonne. Also Moustapha, was würdest du sagen, von wo kommt... Könnte die Problematik kommen in Ländern wie in Senegal, aber in Ländern, wo es ein ähnliches Klima und eine ähnliche Umwelt gibt wie Senegal?
Oui, merci Ousmane, merci Leila. Donc, ce qu'a dit Moussé Bahoum encore pour cette seconde interview, c'est tellement vrai. Donc, celui qui veut travailler la terre, avoir des rendements, il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau est essentielle par rapport à l'agriculture. Donc, surtout dans nos pays où tout repose sur l'agriculture. Maintenant, il faut comprendre comme je disais tout à l'heure, qu'il y a deux saisons au Sénégal et souvent en Afrique, c'est deux saisons. Il y a la saison hivernale qui part de mai-juin jusqu'en octobre et il y a la campagne de contre-saison la contre-saison hivernale qui part de novembre au mois de mai. Donc, maintenant, il y a le Sénégal en 1986 déjà, 20 ans après l'indépendance à peu près, donc le Sénégal a voulu, avec les pays de quelques pays d'Afrique, donc la Mauritanie, la Gambie, le Mali, et la Guinée, ils ont voulu faire un barrage, ce qu'on appelait le barrage de Diama. Le barrage de Diama, c'est surtout là, hein, c'est pas loin, à 27 km de Saint-Louis. Donc, son rôle principal était d'empêcher la remontée des eaux salées. C'est-à-dire que les eaux salées remontaient vers les zones de culture. Et il fallait, en 1986 déjà, avec ces pays, dans l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, stopper ces remontées salines pour travailler sur l'agriculture.
Wie gesagt, Wasser ist absolut zentral und es gibt in Senegal zwei Jahreszeiten. Also eine wäre von Mai bis beziehungsweise von Juni bis Dezember und dann von November bis Mai. Das wären ungefähr die zwei Jahreszeiten, auf denen die Organisation der Landwirtschaft beruht. Und zum Thema Wasser, ich würde ein Ereignis nennen. Das war in 1986, also 20 Jahre nach der Unabhängigkeit von Senegal, gab es einen Plan mit anderen Ländern, also mit Mauretanien, Gambien, Mali und Guinea, einen großen Staudamm zu bauen zur Verhinderung des Eindringens von Salzwasser, weil das war viel ein Problem in der Landwirtschaft.
Voilà, donc pour comprendre aujourd'hui pourquoi M. Bahoum insiste sur l'eau, c'est parce que il y a des défauts par rapport à ça. Maintenant, ces ouvrages-là, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le barrage de Diama, ça doit irriguer près de 297 000 hectares. Vous voyez un peu, 297 000 hectares de terre pour cultiver. Mais malheureusement, on ne cultive même pas 100 000 hectares. Donc, et là, c'est un problème aujourd'hui. Il y a l'eau, mais on ne produit rien. Et là, il faudrait quand même chercher le pourquoi du comment et voir, chercher les solutions. Quelles sont, depuis 1986, pourquoi on a autant beaucoup d'eau et on n'a pas beaucoup de culture, beaucoup de rendement.
Aber obwohl dieser Infrastruktur gibt es viele Mängel bezüglich Wasser. Also dieser Damm, der irrigiert 297.000 Hektar an kultivierbarer Erde. Aber davon werden nur 100.000 kultiviert, obwohl es die Erde gibt und das Wasser. Und da kann man sich fragen, warum und von wo kommt dieser Unterschied?
Moustapha, dans le domaine de l'eau et des périodes, des saisons, on voit que parce que ce que j'avais constaté au Sénégal, le plus souvent l'agriculture se fait pendant la période juin jusqu'au mois d'octobre.
Juin-octobre.
Ouais, juin-octobre. Oui. Donc, pour 12 mois, là, on ne culture que 3 mois.
Oui.
Ouais. Moi, et que tu avais énuméré qu'il y a assez d'eau au Sénégal. Mais donc, quel est le problème de cette dépendance de la pluviométrie? Pourquoi pas les agriculteurs ne peuvent pas cultiver pendant au moins 6 mois dans l'année. Mais tu veux cultiver 3 mois et vivre pour 12 mois. Est-ce que cela aussi est possible dans un pays où il y a assez d'eau? Et si on quitte le Sénégal, des pays comme la Guinée, ils ont beaucoup plus d'eau. Je pense que même cette fleuve prend sa source à partir de la Guinée.
Also, wenn man das anguckt mit den verschiedenen Jahreszeiten, der Großteil der Kultivierung der Erde passiert zwischen Juni und Oktober. Das heißt, obwohl es genügend Wasser gibt und obwohl auch Regenmessung eine große Rolle spielt, gibt es nur 3 Monate von 12, während denen kultiviert sein kann. Wie kommt das?
Voilà, Ousmane. Donc, Ousmane, merci Leila pour la traduction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on a une culture hivernale qui est là et qui fait pratiquement 70% de la culture au Sénégal et en Afrique. Hein, il faut comprendre que c'est pratiquement ce qui se passe au Sénégal, c'est pratiquement ce qui se passe en Afrique. Donc, on a 60% à 70% de la culture qui dépend de l'hivernage, qui est de juillet, août, septembre, donc qui est 3 mois. Maintenant, il y a les barrages qui produisent de l'eau, mais ces barrages-là ne desservent pas, ne donnent pas l'eau à toutes les régions. Le circuit de l'eau qui est retenu au barrage de Diama, ce circuit-là ne passe que vers les pays du Nord. C'est pourquoi on parlait des vallées fossiles, c'est-à-dire que drainer l'eau pour l'amener au centre, drainer l'eau pour l'amener vers Touba, drainer l'eau pour l'amener vers le Sénégal oriental, à l'est du Sénégal. Donc, ce qu'on appelait les vallées fossiles, ce qu'on appelait les autoroutes de l'eau aujourd'hui, ce que disait Ousmane Sonko et le président Diomaye, les autoroutes de l'eau. Parce que c'est ça qui va, en fait, régler le problème pour que tout le monde ait de l'eau et que tout le monde puisse quand même travailler à partir de cette eau-là pendant au moins, ne serait-ce que 9, 8 ou 10 mois.
Also was wichtig ist hier zu verstehen, ist, dass 70% der Landwirtschaft in Senegal, aber auch in einem Großteil von Afrika, 70% der Landwirtschaft ist Winterkultur. also zwischen Juli, August und September. Und ein Problem hier ist, dass diese Staudämme, die irrigieren nicht alle Regionen. Und deswegen werden sogenannte fossile Täler gebaut. Die leiten das Wasser ab in die Regionen, die nicht genügend Wasser bekommen. Und das nennt man Wasserautobahnen. Die lösen dieses Problem für diese neun, 8 bis 9 restlichen Monate.
Donc moi je vais clôturer par pratiquement. Il faut comprendre aussi que pourquoi toujours il y a la culture de juin à octobre, c'est parce que certaines cultures, certains produits sont pratiquement dédiés ou c'est certaines zones qui le font. Par exemple, quand vous prenez l'arachide. L'arachide ne se fait presque pas dans l'axe nord vers Saint-Louis. L'arachide se fait dans le bassin arachidier. Et le bassin arachidier, c'est Kaolack, c'est Fatick, c'est Kaffrine et c'est Durbel. Donc, il y a aussi, c'est pourquoi il y a l'usine de la Sonacos qui se trouve à ce niveau-là, la Sonacos. Il y a aussi les céréales. Les céréales, c'est le riz qui est fait à Saint-Louis. Le mil aussi se fait à Saint-Louis, bien que c'est fait aussi dans le bassin arachidier, le sorgho et le maïs. Donc, c'est des spéculations, c'est des céréales qui se font un peu partout, mais le riz est fait en dominante vers l'axe nord avec le barrage des diamants. Toutes les autres cultures se font à peu près ça et là. Il y a la Casamance qui produit du riz avec le bassin de l'Anambé. Il y a aussi le Sénégal oriental aujourd'hui qui produit un peu aussi du riz, mais ce n'est pas beaucoup. Vous voyez un peu, chaque région a une spécificité, il a une culture propre à faire et certaines régions manquent de l'eau et ne peuvent pas faire l'arachide toute la saison, ne peuvent pas faire le mil toute la saison. Et ceux qui ont de l'eau ne font pas les autres cultures. Et vous voyez ce que ça fait.
Diese Landwirtschaft, ein Großteil der Landwirtschaft passiert also zwischen Juni und Oktober. Und was hier wieder wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es Zonen gibt, die bestimmte Produkte produzieren. Zum Beispiel Erdnuss wird nicht überall produziert. Sie wird zum Beispiel nicht im Norden produziert. Getreide wird in vielen Regionen produziert, unter anderem in Saint-Louis. Reis wird dafür viel im Norden produziert, weil da dieser Staudamm ist, im Osten auch. Aber in manchen von diesen Regionen gibt es einen Mangel an Wasser und dadurch gibt es dann einen Mangel an einem bestimmten Produkt, da die Regionen in Produktion aufgeteilt sind.
Ousmane, je termine sur l'horticulture. Je termine sur l'horticulture, ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi la culture de l'horticulture, c'est-à-dire que tout ce qui est oignon, tout ce qui est pomme de terre, tout ce qui est patate, tout ce qui est banane, mangue, ainsi de suite. Et cette culture-là, c'est une culture horticole. Donc, c'est une culture qu'on appelle l'arboriculture. C'est-à-dire que c'est des cultures qui sont faites par rapport à des pieds, à des manguiers, ainsi de suite. Et l'autre, c'est l'oignon, la pomme de terre, la patate, les tubercules avec le manioc. Donc, cette culture est faite partout au Sénégal. Partout. Partout où tu vas, tu verras qu'il y a l'oignon, les gens font de l'oignon. Mais il y a des zones qui font beaucoup d'oignons, comme la zone des Niaï, la zone des Niaï, ça quitte pratiquement, Bayard, Sébicotane, et arrive presque à Saint-Louis, à Gandiol. Il faut, imagine-toi que, là, il n'y a pas longtemps, on a vu des gens qui jetaient la pomme de terre ou l'oignon sur la route.
Ouais.
Parce qu'il y a une grosse production. Cette grosse production ne peut pas être vendue et n'est pas conservée. Parce qu'il n'y a pas de chambre froide pour les conserver. Et là, ça devrait être l'agro-industrie qui devait s'en charger pour transformer. Malheureusement, ils n'ont pas ça. Donc, il faut cette